Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est aujourd'hui que se met en marche le train littérature, à vous de lire, qui va circuler dans 14 villes de France pour présenter une exposition intitulée « Des tablettes d'argile aux tablettes numériques ». En fait, c'est une exposition sur l'histoire du livre à travers les âges qui est signée d'un certain Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Vous avez raison.
Donc c'est le ministre de la Culture qui inaugure l'exposition tout à l'heure, dans la soirée. Il faut vous dire que moi j'ai passé toute ma vie jusqu'à ce jour au milieu des livres, des brochures, des albums, des recueils, des dictionnaires et autres ouvrages. Alors je leur devais quand même cet hommage du cœur. L'exposition, qui est brillamment scénographiée par Scherzo, va présenter notamment quelques pièces extraordinaires, des parchemins enluminés, des incunables, c'est-à-dire de très très vieux imprimés, des manuscrits autographes de grands auteurs, etc., qui viennent et du scriptorial d'Avranches, le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, et du musée des lettres et des manuscrits de Paris. On se familiarisera avec le papyrus, le parchemin, le papier. On revivra l'aventure de l'imprimerie depuis Gutenberg jusqu'aux machines ultramodernes. Enfin voilà, je vais vous faire visiter tout ça par les ondes, si vous le voulez, dans la deuxième partie de cette émission. Et avant ça, j'aimerais vous raconter, de la manière la plus simple, la plus libre possible, l'une des plus fantastiques aventures de l'humanité, cette captation de la pensée dans l'écriture et puis la diffusion du savoir grâce à des supports d'écriture de plus en plus performants.
Nous sommes tout oui, Franck.
Alors vous allez voir, vous êtes la chose la plus importante qui existe en histoire. Du reste, sans écriture et sans livre, eh bien, il n'y aurait pas d'histoire.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Les premières phrases tracées de main d'homme l'ont été sur des tablettes d'argile au Moyen-Orient, en Mésopotamie, dans la région des deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, il y a déjà plus de 5 millénaires de cela. On pourrait aussi parler des signes gravés dans le basalte de Babylone ou dans le granit égyptien. Plus modestement, si vous le voulez bien, aujourd'hui, je partirai des premiers ouvrages tels que nous les concevons, des premiers ouvrages qui remontent à notre antiquité, si je puis dire, à l'antiquité grecque et romaine. Or, à Athènes, à Rome, le livre n'est pas encore un pavé, ce n'est pas un parallélépipède rectangle comme aujourd'hui. À l'époque, ce qu'on appelle le livre, c'est un cylindre. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que ça va marquer tous les débuts de l'écriture, en tout cas des supports de l'écrit. Il s'agit au départ d'une très longue bande, d'une bande en tout cas de papyrus qui est roulée, volvere en latin, volvere, le volumen, c'est ce qui donnera le nom du volume. On appelle ça donc ces espèces de rouleaux sur lesquels sont les textes anciens, ce sont des volumina, un volumen. Alors les Grecs et les Romains ont repris, vous savez, des Égyptiens, cette invention bien pratique du papyrus. Ils l'ont repris via le Levant. On sait que c'est à Byblos essentiellement que se sont effectués les premiers échanges dans ce domaine. Et Byblos, vous voyez toute la racine que ça va pouvoir donner en grec. Alors qu'est-ce que c'est que ces papyrus? Ben, ce sont donc des tiges d'une plante particulière, cette espèce de grand roseau qui fait à peu près entre 1,5 cm et 3 cm d'épaisseur. Ces tiges sont fendues dans toute leur longueur. Et avec une aiguille, on tire, si vous voulez, des bandes d'écorce. Alors vous avez des écorces de catégories, de qualités différentes. Vous avez des papyrus de première, de deuxième, de troisième qualité, dont les usages, du reste, seront déterminés par cette qualité. L'écorce, en latin, ça se dit « liber », ce sera l'origine même du mot « livre ». On se rend compte que finalement, un très grand nombre de ces termes sur lesquels nous vivons, bibliothèque, livre, etc., tout ça vient précisément de ces supports de l'écrit. Alors, les bandes de papyrus sont humectées, elles sont mises dans des bains. Il faut se dire qu'il y a une sorte de sève qui fait que ça les rend un peu visqueuses, ça fait comme une colle. Alors on les croise, j'allais dire on les tresse, en tout cas on les croise, on les tisse si vous voulez, on les presse, on les fait sécher au soleil et puis ensuite on les enduit pour justement qu'ils ne redeviennent pas collants, ce qui pourrait poser de gros problèmes lorsqu'ensuite ils sont roulés. On les enduit d'huile de cèdre, d'un certain nombre de préparations. On colle ensemble tout un ensemble de feuilles. Alors généralement ce qu'on appelle un volume, ce sont 20 feuilles. Dans l'Antiquité romaine, ce seront plutôt 10 ou 12 feuilles selon les cas. Et ces rouleaux, ensuite, évidemment, eh bien, ils sont enroulés autour de baguettes. Alors, il faut imaginer que, bien entendu, quand on a affaire à de très grandes, de longues œuvres, il faut mettre bout à bout un grand nombre de ces feuilles. Et il aurait fallu, par exemple, pour l'Iliade d'Homère, il aurait fallu 80 mètres de rouleaux de papyrus. Alors, évidemment, on ne peut pas tout présenter dans un seul rouleau. Ça ferait d'énormes documents. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on segmente ces papyrus en plusieurs rouleaux, en plusieurs livres. Ce qui explique que dans notre littérature classique, hein, quand vous prenez, je ne sais pas, Virgile ou Tite-Live, etc., vous avez toujours le livre 1, livre 2, livre 3, etc. C'est en fonction précisément du découpage en rouleaux. Tout ça est installé ensuite dans des espèces de petits alvéoles qu'on appelle les nids dans les bibliothèques. Ils ont une forme de losange. Sont disposés comme ça en quinconce, si vous voulez. La plus grande bibliothèque du monde antique, c'est évidemment la bibliothèque d'Alexandrie, qui contiendra quelque 700 000 volumes. Attention, je dis bien 700 000 volumes, vous avez bien compris qu'un même titre, un même ouvrage s'étend sur plusieurs de ces volumes, ce qui fait qu'environ, à la bibliothèque d'Alexandrie, on avait environ 100 000 titres qui couvraient entre 5 et 7 000 auteurs, pour autant qu'on puisse le savoir très précisément. Donc je vous ai dit que le papyrus était enroulé autour de cette baguette. C'est une baguette qui est tantôt en cèdre, tantôt en buis. Les plus riches d'entre elles sont même en ivoire. La tranche est souvent colorée et au bout du manche, si vous voulez, vous avez un bouton qui est tantôt en argent, en or, en ivoire. Il peut même être orné de pierres précieuses. Ce bouton, c'est ce qui, lorsque vous regardez un rayon complet de bibliothèque, c'est ce qui apparaît dans la pénombre de la bibliothèque. Hein. Ça fait comme des espèces de petits points de repère. Ce sont les nombrils, en quelque sorte, de l'ouvrage, d'où leur nom d'umbilicus, les ombiliques, en quelque sorte. On ne sait pas, ça dépendait, hein, ça dépendait ensuite des cas. Parfois, le nom de l'ouvrage était gravé sur l'ombilicus lui-même. Parfois, il pendait à une étiquette qui, justement, était accrochée à ce bout de baguette. Il arrivait que des manuscrits soient contenus également dans des boîtes cylindriques pour essayer de les protéger le plus possible. C'était le cas notamment pour beaucoup des ouvrages de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, il faut imaginer ces bibliothèques immenses qui sont composées de ces murs de petits nids qui comportent donc tous ces rouleaux. Aucun des grands textes classiques que nous possédons, quand je dis aucun, il faudrait être plus juste et dire pratiquement aucun ne nous est parvenu sur papyrus. Ce que nous possédons, nous, ce sont des copies de ces textes qui ont été faits plus tard sur parchemin. Pergamena en latin, ça vient du mot, ça vient de Pergame, où la technique s'est perfectionnée, la technique du parchemin, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que, mutatis mutandis, nous sommes en train de changer de support. Du papyrus tellement friable, certes léger, mais particulièrement peu armé pour durer, on va passer bientôt au parchemin, qui alors lui est particulièrement résistant et nous a permis de transmettre, nous a permis de protéger et de pouvoir disposer aujourd'hui de tout ce savoir et de toutes ces œuvres que nous a léguées l'Antiquité à travers d'infinies copies.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Quel quelques mesures de la très belle musique de Dario Marianelli pour ce film Agora, où l'on voit des scènes entières se passent au sein de cette merveilleuse bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, vous savez, c'était le grand drame de la fin de l'Antiquité. Cette grande bibliothèque d'Alexandrie qui est reconstituée dans le film Agora grâce à des images de synthèse, évidemment. Alors, lorsqu'on passe du papyrus au parchemin, évidemment, on arrive sur un support beaucoup plus résistant, plus épais. Ça permet du reste d'écrire des deux côtés. Alors, attention, les parchemins ne sont plus collés bout à bout. Ils sont découpés en rectangles, cousus en marge, ce qui fait qu'on a cette fois des feuilles comme celles auxquelles nous sommes habitués. Le livre devient un livre carré, le Liber Quadratus, ce qu'on appelle le codex. Il y avait des codex de papyrus également, nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Du reste, la forme même du codex a été inspirée par les tablettes. Vous savez que c'était des tablettes de bois, en if ou en érable, qui étaient couvertes de cire et sur lesquelles on écrivait avec un stylet. Ces tablettes servaient à l'écriture quotidienne. C'était un peu les ardoises magiques de l'époque. Elles servaient essentiellement pour tout ce qui était écriture passagère, évidemment, pour faire des brouillons. Ces tablettes, il faut bien être conscient qu'elles ont persisté très longtemps, jusqu'au 15e siècle de notre ère, jusqu'à ce qu'elles soient tout simplement remplacées par le papier. Alors, les livres, les livres carrés, les codex, les codices, devrais-je dire, étaient posés à plat. On ne pouvait pas les mettre debout à l'époque parce que le parchemin est très lourd et donc il ne tenait pas debout. On les posait à plat, on les empilait, ce qui fait que dans les bibliothèques, évidemment, c'était extrêmement peu pratique. Les manipulations de manuscrits étaient extrêmement complexes. Le parchemin, encore une fois, supporte assez mal d'être placé debout. Il se déforme quand il est placé dans cette position. Sur les parchemins, on écrivait avec un roseau taillé, un roseau épointé, qu'on appelle le calame, et qui sera remplacé très tôt, dès le 7e, 8e siècle, par une plume d'oie ou plume d'autres oiseaux du reste. Elle-même, cette plume sera peu à peu modifiée. On aura très vite des plumes en métal. On a de très belles plumes en or du 9e siècle, par exemple. Quant à l'encre, l'encre était était fabriquée à partir de noir de fumée, de gomme et d'eau. On ajoutait parfois un certain nombre de produits dans cette encre, notamment pour faire fuir les parasites et les souris, notamment. Plus tard, on utilisera le sulfate de fer avec du noir de galle, de la gomme et de l'eau également. Ça, c'est pour les encres noires. Et puis, il y a des encres de couleur, parce que vous savez que les superbes parchemins du Moyen-Âge sont enluminés. Les lettrines sont souvent peintes en rouge, d'où d'ailleurs cette rouge roubaix. Ce sera l'origine du mot rubrique. C'est les têtes de paragraphe, en quelque sorte, qui sont comme ça ornées de très belles lettres rouges. Alors, où s'effectuent les copies d'œuvres anciennes, qu'il s'agisse d'œuvres religieuses ou profanes? Elles s'effectuent essentiellement dans des monastères, vous savez, dans les scriptoria des monastères. Ce sont ces espèces d'études où des moines, rivés à leur pupitre, passent le plus clair de leur temps à recopier de façon très méticuleuse les écrits d'autrefois. Peu à peu, à partir du XIIe siècle, on va voir les laïcs s'en mêler, évidemment. La demande de manuscrits est de plus en plus importante, elle devient exponentielle. Un manuscrit à l'époque, ne serait-ce que par la matière sur laquelle il est copié, c'est-à-dire le parchemin, mais aussi par le très grand nombre d'heures qu'il faut pour arriver à copier un texte entier, tout ça coûte extrêmement cher. Et évidemment, c'est réservé aux personnes très fortunées. Pour vous donner une idée, en moyenne, on estime qu'un manuscrit utilisé entre 30 et 50 brebis pour faire les parchemins. Tout ça va durer évidemment jusqu'au papier. On imagine les moines dans tous ces monastères d'Occident qui, par leur travail de fourmi, par leur travail inlassable, permettent de sauver les grandes œuvres de l'Antiquité. Alors, le papier évidemment va tout changer. Ce sont, vous savez, les Chinois qui, au IIe siècle avant notre ère, ont eu les premiers l'idée de tremper des petits morceaux de chiffon de soie pour en tirer, de les détremper, et pour en tirer une sorte de pâte fibreuse qui traité, aplati, puis séché, va finir par former un support qui est à la fois souple, résistant et surtout léger et bon marché. Ça, c'est une révolution extraordinaire. Les Chinois vont conserver le secret de fabrication du papier pendant des siècles. Et on sait que ce sont les Arabes qui, probablement sous la torture, arracheront ce secret à des fabricants qu'ils avaient enlevés. Depuis Canton, on voit le papier donc se répandre peu à peu. On le voit à Samarcande, Istanbul, et puis sur le pourtour méditerranéen jusqu'à Fès. On traverse le détroit de Gibraltar. Les grands premiers papetiers d'Europe, ce sont ceux de Tolède. Et puis, peu à peu, le savoir-faire se répand jusqu'à travers la France, hein, jusqu'à Troyes, en Champagne notamment. Les moulins à papier se développent à partir du XIIe siècle. Alors, pourquoi des moulins ? Mais parce que pour déchiqueter tous ces chiffons, pour fabriquer la pâte à papier, il faut des battoirs qui sont actionnés par des roues à eau, des roues qu'on installe généralement sur les rivières en amont des villes. Alors, on voit ça dans toutes les régions dont le bassin hydrographique est important. Hein. Il y a beaucoup de papeterie à l'époque, quand je dis à l'époque, 13, 14e siècle, autour du lac de Garde, dans les Vosges, en France, dans le Dauphiné, bien sûr, et puis, je vous l'ai dit, en Champagne, à Troyes, etc. On utilise beaucoup les vieux chiffons. Il faut dire que ces vieux chiffons, ils se mettent à abonder à partir du 13e siècle, du fait du recul de la laine dans les tenues vestimentaires. On utilise aussi tout ce qu'on trouve, hein, notamment de vieux cordages. On fait des papiers de qualité, de nature très diverse, il faut bien le dire. Mais l'intérêt de ce papier, c'est donc qu'il est relativement bon marché, qu'il est très léger, ce qui fait qu'on va pouvoir transporter les manuscrits, on va pouvoir les disposer debout et constituer ces grandes bibliothèques de consultation qui vont modifier complètement le rapport au savoir. Et puis, ils sont, encore une fois, beaucoup plus économiques, ce qui permet une certaine démocratisation également des livres. Une chose très importante et qu'il faut bien souligner, c'est que le papier est, comme on dit, amoureux de l'encre. Il l'absorbe. Et puisqu'il absorbe très vite cette encre, il va permettre une autre révolution, alors là, la plus importante de toutes. Il va permettre tout simplement l'impression. Ce seront bientôt les débuts de l'imprimerie.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce que nous faisons donc aujourd'hui, c'est parcourir, comme dans le train littérature, parcourir toute l'histoire, toute cette aventure incroyable des supports de l'écrit, ce qui a permis à nos ancêtres, peu à peu, de transmettre leur savoir. C'est une chose tout à fait essentielle. Alors, nous en sommes au moment décisif de l'invention de l'imprimerie. Évidemment, dès qu'on parle d'imprimerie, on a tendance à parler de Gutenberg. En vérité, il faut être bien conscient que tout ça a commencé bien avant Gutenberg. Dès le 6e siècle de notre ère, les Chinois, encore eux, mais parce qu'ils avaient le papier, tout simplement, ont utilisé des planchettes gravées et ancrées pour reproduire un certain nombre de motifs. On en est encore au stade de la xylographie. En Europe, on ignore tout ça au moins jusqu'au XIe siècle. Et puis, soudain, on se met également à faire de l'impression, alors à partir de planchettes de noyer, de poirier, etc., que l'on va donc imprimer sur un papier qui ressemblerait plutôt à ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, du carton. Et on en fait des images pieuses, essentiellement, mais aussi des cartes à jouer. Au départ, ce sont des dessins, essentiellement, hein, qui sont gravés, qui sont ainsi reproduits. Et puis, sous les dessins apparaissent assez vite des légendes, de petits textes, et on va se mettre à imprimer de petits textes. Avec un énorme problème, c'est que les planchettes en question s'usent vite, et d'autant plus vite qu'évidemment elles ont été humectées, elles ont été imprégnées d'encre. Donc, évidemment, l'impression reste encore extrêmement artisanale et aléatoire. On tamponne seulement le recto de la planchette à l'encre, évidemment. Hein. On imprime les feuilles d'un seul côté, et lorsqu'on veut avoir une impression des deux côtés, eh bien on se contente de coller deux feuilles dos à dos. On n'en est pas encore à l'impression recto-verso, loin de là. Néanmoins, grâce à ce système de collage de deux feuilles recto, l'une contre l'autre, on arrive à établir de tout petits livres. C'est la fameuse Bible des pauvres des les années 1420. On voit apparaître également la grammaire latine de Donatus sous cette forme-là. Vous imaginez le rôle que soudain ça confère aux graveurs, parce que ce sont eux qui, évidemment, réalisent les planches d'imprimerie. Et puis un jour, ça encore c'est une idée qui vient de Chine, un jour on arrive à faire des lettres mobiles. Toujours en bois, là, je précise bien. La technique est arrivée en Occident via les Turcs. Le problème, encore une fois, c'est que le bois se déforme. Les petites lettres en question sont très différentes. Il n'y en a pas deux identiques. D'où, au milieu du XVe siècle, le recours au métal. Qui a eu cette idée de génie? Eh bien, c'est ce que j'aimerais que nous voyons en compagnie de Frédéric Barbier, qui est ici avec nous aujourd'hui et qui est un des grands spécialistes de cette histoire du livre et des débuts de l'imprimerie. Merci Frédéric Barbier d'être des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.
L'invention des planches métallique pour l'imprimerie, c'est ça la véritable révolution. Et là, on est bien avant Gutenberg.
Oui, la véritable révolution, c'est surtout le principe d'analyser les textes par caractère, c'est-à-dire un signe pour une lettre.
C'est-à-dire que vous voulez dire que du point de vue de l'histoire des mentalités, c'est une modification complète.
C'est une modification complète et avec une deuxième composante qui consiste à fabriquer des caractères normalisés en grande série, ce qui était impossible avec ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, à savoir les caractères en bois.
En bois, évidemment.
Qu'il fallait regraver chaque fois, tandis exactement. Qu'avec des moules, on peut tirer autant de petits A, de petits B, de petits C qu'on veut.
Alors les moules en question, les matrices, sont au départ elles étaient en cuivre, ensuite en plomb, et puis on coule dedans tantôt du plomb, de l'étain. Plus tard, on mettra de l'antimoine, évidemment, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Gutenberg intervient là-dedans en inventant, lui, le caractère mobile.
C'est l'invention décisive, c'est le caractère mobile. On pense toujours à la presse de Gutenberg, mais des presses, il y en avait depuis l'Antiquité,
ans.
Pour le coup.
Ah oui, alors d'ailleurs,
ah
oui,
oui, des presses à raisin, des presses à huile, toutes sortes de pressoirs. Donc, la presse typographique suppose certains aménagements. Disons que le principe n'est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est une analyse systématique des textes sous forme de caractères, au fond, alphabétiques. C'est la logique de l'alphabet, mais repoussée au-delà de la technique jusque-là employée.
Est-ce qu'on peut néanmoins rendre hommage à Laurent de Coster de Harlem?
Il faut dire que, comme le disait notre maître Henri-Jean Martin, l'invention dans les années 1440 en Europe, l'Europe rhénane, l'Europe dure, l'Europe entre, disons, la vallée du Rhin et l'Italie du Nord.
Bien continentale.
Oui, c'est une invention, il disait, qui était dans l'air. Autrement dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on cherchait, il y avait une demande de manuscrits.
Beaucoup de tâtonnements, oui.
Et on cherchait une méthode pour produire des manuscrits en plus grand nombre, à meilleur marché, plus rapidement.
On cherche une écriture mécanique.
Oui,
quoi,
et d'ailleurs, c'est tout à fait ce que vous disiez aussi tout à l'heure, à savoir si on a utilisé cette technique liée à la gravure sur bois à ce moment-là, c'est bien parce qu'on cherchait le moyen de reproduire un certain nombre de choses dans des conditions meilleures que celles de la seule écriture.
À partir du moment où on est passé des caractères en bois aux caractères métalliques, ce sont les professionnels, les artisans qui ont changé. On ne fait plus appel à des graveurs, mais à des orfèvres. Et Johannes Gutenberg de Mayence est un orfèvre.
Ce sont des gens qui sont tout à fait techniciens, disons, des techniciens du travail du métal. Et dans un certain nombre d'autres cas, c'est tout à fait évident. Alors, c'est quelque chose qui revient extrêmement cher aussi. Donc, ça se passe dans de petits milieux extrêmement spécialisés. Mais si on comptait les techniciens de haut vol qui se trouvaient en Europe vers 1445, il n'y avait peut-être pas quelques dizaines.
Alors, ça reste effectivement très coûteux, ces tout premiers livres imprimés. Mais à côté de ce qu'était le coût d'un manuscrit sur parchemin, c'est quand même relativement modeste. Je lisais ça encore là, l'autre jour en préparant donc cette exposition pour le train littérature à vous de lire. Le coût d'un manuscrit d'une grosse Bible manuscrite, c'était le coût d'un petit manoir. C'est ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est-à-dire que c'était une fortune gigantesque. Vous imaginez, entre parenthèses, la richesse des grandes bibliothèques, notamment de monastères à l'époque.
Les grandes bibliothèques princières faisaient partie du trésor des princes.
Ça, bien sûr.
C'était des sommes absolument phénoménales. Mais quand je dis que les livres coûtaient, que c'était des techniques chères, je veux dire que ce qui coûtait extrêmement cher, et qui a coûté très cher jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est les caractères typographiques.
Ah oui, c'est
ce qu'on appelle les fontes. Ça veut dire vraiment le matériel qui sert à imprimer les caractères.
Et ça explique le développement du crédit dans toutes les villes qui vont... parce qu'il faut mettre en place les structures financières qui vont permettre d'investir pour les libraires. Et puis ça explique aussi la quantité incroyable de faillites qu'on a connues dans les premières années de l'imprimerie. Puisque sur les... Alors j'avais pris le chiffre, mais je crois que c'est les... dans les années 1480, sur les 24 000 imprimeries initiales, ne survivent que 1500, c'est ça, d'après ce que j'ai lu?
Pas tout à fait, mais j'avais comparé cette période de Gutenberg, on l'a appelée la deuxième révolution du livre, par opposition, par commodité aussi, il faut bien le dire, à la troisième, qui serait celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Avec les start-up qui
absolument.
Se sont un peu cassées la figure.
C'est le terme que j'ai employé aussi. Ces entreprises de Gutenberg et de ses associés ou de ses imitateurs, ce sont exactement des start-up. Ça veut dire que Gutenberg a travaillé dans tout autre domaine que la seule fabrication de caractères typographiques et il a été financé par des gens qui mettaient de l'argent dans ces opérations dont on ne savait pas si elles allaient aboutir, avec l'idée, si ça marche, évidemment, on fait la culbute. Mais comme de juste, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et assez souvent, en effet, ça s'est fini par des problèmes financiers tout à fait considérables, même pour Gutenberg. Et
j'allais dire, Gutenberg lui-même a quand même pas très bien fini, il faut le dire.
Non, Gutenberg a été probablement dépouillé, en somme, de son invention par les investisseurs qui étaient derrière lui et qui sont les premiers dont on est en effet les noms imprimés, en l'occurrence, sur des livres.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Avec à la une aujourd'hui la révolution Gutenberg, on retrouve Franck avec ses deux invités pour en parler, Pascal Fulaché qui est conservateur du musée des lettres et des manuscrits, et Frédéric Barbier, historien du livre, directeur de recherche au CNRS.
Je réalise, Frédéric Barbier, que j'ai dû vous faire souffrir parce que je retrouve mes chiffres en question. Alors effectivement, il faut enlever un zéro en fait, c'est ça.
C'était un peu surestimé.
On était plutôt à 1800 entreprises créées. Et quelques dizaines seulement vont survivre, en fait. C'est ça qui est incroyable.
Hein? Il y a, dès la fin du XVe siècle, un phénomène de concentration et de rationalisation tout à fait extraordinaire.
Alors, nous avons essayé, à travers ce train littérature à vous de lire, de montrer tout ça. C'est-à-dire qu'on se promène dans le train. Au départ, vous verrez de véritables tablettes d'argile avec de l'alphabet cunéiforme, évidemment. Vous verrez des papyrus à l'état de plantes, puis traités. Vous verrez la révolution, le passage du volumen au codex. Vous entrerez dans un scriptorium. Et dans les vitrines de ce scriptorium sont présentés de véritables manuscrits enluminés, des parchemins absolument somptueux. Et puis ensuite, on a une reconstitution du premier atelier de Gutenberg à Mayence, avec la fameuse presse, avec les caractères mobiles, etc. On voit là des incunables, on a plusieurs stades d'incunables, hein, tout ça. Ce sont encore une fois des objets authentiques, j'insiste, puisque c'est la première fois qu'un train va comme ça promener à travers la France des objets de cette importance. Et puis, eh bien, on a l'évolution vers une imprimerie de plus en plus industrielle. Ce qui est étonnant, Frédéric Barbier, c'est qu'après Gutenberg, les choses n'évoluent pas très vite, finalement. Pendant très longtemps, on conserve, alors avec des raffinements, des perfectionnements, bien sûr, mais globalement, le système, le principe de l'imprimerie reste le même jusque très tard, jusque presque premier tiers du 19e siècle, en fait.
Jusque dans la deuxième moitié du 18e, certainement.
Voilà, c'est ça, oui.
Mais c'était une révolution considérable. Dans la seconde moitié du XVe siècle, on a conservé de cette cinquantaine d'années, en somme, comme vous le disiez, 30 000 titres imprimés. Et comme je le dis volontiers, si vous calculez 500 exemplaires par titre, ça vous fait dans les 15 millions de volumes d'unités bibliographiques, comme on dit, c'est qui ça. Sont mis en circulation à travers l'Europe en 50 ans.
Ça change
c'est
tout.
Un changement absolument radical. Ouais.
Nous qui venons de connaître la révolution d'Internet, nous pouvons comparer en quelque sorte. Hein, en termes
c'est
de...
vraiment un changement radical. Alors, après, on a vécu pendant un certain temps sur ces données-là, avec des améliorations finalement assez ponctuelles. Quand la demande augmente en général, on commence par accroître ce qu'on appelle le capital, le facteur travail. Autrement dit, on a multiplié les presses et on a multiplié les ouvriers qui les faisaient tourner. Et puis, à un moment, ces choses-là ne sont plus rentables et alors on passe à un autre système technique.
Il est évident qu'une révolution de cette importance a des conséquences tout à fait décisives. décisive sur l'évolution du savoir, de la transmission de ce savoir, sur l'évolution de la pensée aussi. Ça pose un certain nombre de problèmes pour les gouvernants de l'époque et bien sûr pour le premier pouvoir du temps qui était l'Église. On peut dire que la réforme, en tout cas on l'a dit, c'est Brodel qui disait la réforme est fille de l'imprimerie, mais il y avait véritablement cette idée-là. L'Église a d'ailleurs essayé de contrôler ces textes, cette espèce de marée, de raz-de-marée de textes, avec l'instauration de l'index, évidemment, mais que peut l'index contre une telle marée absolument extraordinaire? Viendra plus tard une véritable industrialisation poussée par les besoins de la presse. Ça aussi, nous le montrons dans l'exposition. C'est-à-dire que ce n'est pas la librairie qui a eu besoin de... C'est la presse, hein, ce sont les journaux, en quelque sorte, qui, au XIXe siècle, ont eu besoin de modifications et d'une industrialisation. Là encore, on a remultiplié par 10 ou 20 le nombre d'exemplaires.
C'est-à-dire que la presse périodique a des besoins qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'impression des livres proprement dit. En réalité, si vous imprimez aujourd'hui des livres comme nous en publions, nous, je veux dire, les historiens un peu spécialisés, on tire à des chiffres qui ne sont pas très différents de ceux de l'Ancien Régime. La presse périodique, on a besoin de tirer à des centaines de milliers d'exemplaires dans la nuit. Et à ce moment-là, les deux facteurs s'additionnent. Il faut réellement des machines qui vont, en effet, vous sortir le journal pour demain matin à 6 heures du matin, de manière à ce qu'il soit distribué en ville.
Dans les années 1890 à Paris, quatre titres,
plus d'un million.
C'est ça, c'est absolument...
Chose qui n'existe plus.
Absolument considéré. D'ailleurs, ça n'existe plus. De ce point de vue-là, nous avons reculé dans le domaine de la presse écrite. Un petit hommage musical à Gutenberg.
Je me suis fait arrêter par la police. Ma première réaction fut de m'échapper, mais je me suis dit, et si j'étais le nouveau Gutenberg, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne veux plus me fier à la première impression qu'une fille me fait.
C'est Sears qui chante Gutenberg. Finalement, on se rend compte qu'il continue de nous inspirer, l'homme de Mayence. Il y a eu quand même de grandes dynasties d'imprimeurs. Il faudrait parler des Giunta de Florence, par exemple, évidemment. Le plus célèbre de tous à Venise, c'est Aldemanucci, bien sûr, qui a été un peu le père, on peut dire, des libraires imprimeurs. Frédéric Barbier.
Oui, Aldemanus a joué un rôle considérable, mais ce qui est frappant en effet, c'est les grandes familles.
Les Koberger.
Les Koberger à Nuremberg, mais même à Paris, la dynastie des Estiennes, par exemple, qui a donné son nom à une école spécialisée pour les métiers du livre. C'est une des plus grandes dynasties dans ce domaine au XVIe siècle. Les Plantin à Anvers, enfin, il y en a toute une collection de ces grandes dynasties, les Didot encore
les Didot,
un peu plus tard.
Chacun va donner son nom à un type de
caractère,
de police,
oui.
Enfin de caractère.
Et puis jusqu'aux grands éditeurs actuels.
Oui, qui après tout sont
les Hachette, c'est quand même les descendants de Louis Hachette, venu des Ardennes à Paris à l'époque de la Restauration.
Alors, la dernière grande révolution, avant bien entendu la révolution informatique et numérique que nous connaissons en ce moment, ce sera dans les années au tout début du XXe siècle, c'est le procédé offset, évidemment.
Oui, la révolution, fondamentalement, c'est d'avoir remplacé dans la machine de Gutenberg une presse qui fonctionnait à plat par une presse qui fonctionne avec des cylindres.
Qui donc est rotative.
Des rotatives sur lesquelles peuvent tourner des gros rouleaux de papier, eux-mêmes évidemment en forme de cylindre. C'est ancré par cylindre et là on obtient des chiffres de tirage et de productivité qui sont sans commune mesure avec la presse gutenbergienne.
Dans un instant, nous entrons dans le train et nous allons voir un peu ce que vous allez pouvoir visiter.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Le train à vous de lire littérature va donc se promener dans un certain nombre de grandes villes de France et il va amener dans ces villes l'exposition qui s'appelle « Des tablettes d'argile aux tablettes numériques ». C'est toute l'histoire, en fait, de ces supports de l'écrit. Alors, le train est donc aujourd'hui à Paris pour l'inauguration. Dès demain, vous le verrez en gare de Lyon-Perrache, donc demain jeudi 26. Puis il passera par Valence, Marseille, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Angers, Rennes. Le train sera le 4 juin à Nantes, puis à Lille, à la gare de Lille-Flandre, à Reims le lundi 6 avant de rentrer à Paris par la gare du Nord, donc le mardi 7 juin. Je vous redonnerai à la fin de cette émission le parcours de cette espèce de Tour de France, ce Tour de France du train Littératour. Et nous avons en ligne Michel Fremder, qui dirige la Société des Trains Exposition et qui est à l'origine de ce beau projet. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, on peut dire que ce train, est... vous en avez fait combien des trains? Beaucoup déjà. Hein,
ça sera le 264e train des trains exposition de la SNCF.
Alors, 264e, mais dans son genre, honnêtement, c'est le premier.
Écoutez, d'abord, c'est une première mondiale. Ce littérature sur les rails, c'est une première mondiale. Et je peux vous dire, parce que je dirais hélas presque, j'ai fait pratiquement 200 des 264 trains qui ont circulé depuis 1973, que c'est un des plus extraordinaires. Je suis à l'intérieur de ce train et ce que l'on y voit est fantastique, remarquablement fait par Scherzo, ce magicien de l'éphémère. Et c'est vraiment tout à fait remarquable. On oublie que l'on est dans un train.
Scherzo a fait toute la scénographie, donc on se promène en fait. Je disais tout à l'heure qu'on traversait un scriptorium médiéval, qu'on arrivait dans l'atelier de Gutenberg, qu'on se retrouvait dans un atelier avec des rotatives pour évoquer l'industrialisation de l'imprimerie.
Après avoir traversé un champ de papyrus,
exactement,
car il y a des papyrus également, des vrais papyrus.
On est accueilli par le scribe accroupi du Louvre. Alors là, c'est une copie du scribe, évidemment, mais en revanche, les objets qui sont présentés, et en l'occurrence, les manuscrits enluminés, les incunables, les sublimes reliures, les autographes de grands auteurs, tout ça, ce sont des œuvres originales qui sont présentées.
Ce sont des originaux, effectivement, qui sont à l'intérieur, et c'est une extraordinaire performance. Le train va circuler pendant 15 jours dans des conditions, justement, où il faut conserver dans les meilleures, de meilleures façons possibles ces documents, et aussi bien le taux d'hygrométrie que la température, tout doit être régulé, et nos techniciens SNCF ont fait encore une fois des merveilles. Ce train circulera dans les meilleures conditions possibles.
C'est la première fois que vous avez des trésors authentiques comme ça sur un train exposition?
Non. Nous avons fait un jour le train avec la Debirce et nous avions des diamants à bord de ce train. Nous avons fait dans les trains du théâtre ou le train du cinéma, nous avions aussi des éléments assez exceptionnels. Dans le train Léonard de Vinci, que vous avez bien connu, Franck Ferrand,
n'est-ce
aussi,
pas,
nous avions là aussi des éléments tout
qui
à fait...
Qui était un train européen?
Absolument, tout à fait, c'était un train européen. Nous avions fait là aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Eh bien, cette fois-ci, je crois qu'on a renouvelé l'opération. Et tous ceux qui le visiteront, et je sais qu'ils seront très très nombreux, seront assez ébahis du travail réalisé.
Merci beaucoup, Michel. Moi, je serai dans un certain nombre de destinations. Je sais notamment que là, je serai à Marseille samedi prochain, entre autres pour voir un peu comment tout ça se passe.
Si vous me permettez, je rajouterai simplement le site www.train-expo.fr, train au pluriel expo au singulier.fr, parce que vous y verrez des éléments sur ce train, et c'est assez, encore une fois, je le redis, pardon, X fois, c'est exceptionnel.
Et moi j'ajouterais la dimension salon littéraire aussi, puisqu'il y aura des animations sur ce train avec des débats, des signatures, des conférences, des rencontres entre un certain nombre de grands écrivains et le public qui pourra venir. Donc ça, ce sera dans des voitures qui sont derrière l'exposition, des voitures de l'Orient Express.
Absolument, hein. Les voitures de l'Orient Express que nous avons sorti pour cette occasion, et Gonzague Saint-Brice y tiendra son café littéraire chaque jour en recevant des écrivains.
Voilà, donc tout ça promet beaucoup. À la toute fin de l'émission, je vous redonnerai l'itinéraire complet avec les dates. Merci beaucoup Michel.
Merci à vous.
Alors, si tout ça a été possible, c'est grâce à la très bonne volonté de deux superbes collections, une collection privée, une collection publique, celle du scriptorial du Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel d'Avranches et celle du Musée des lettres et des manuscrits de Paris. Très belle collection privée qui se trouve au 222 du boulevard Saint-Germain. J'ai souvent eu à ce micro l'occasion de conseiller à nos auditeurs la visite sur place. Et nous avons le conservateur du Musée des lettres et des manuscrits avec nous. Bonjour Pascal Fulaché.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être ici et merci beaucoup de nous avoir prêté ces chefs-d'œuvre, ces trésors incroyables. On va pouvoir voir vraiment, on peut dire, des choses uniques sur ce train.
Oui, à la fois des originaux déjà, que des originaux, à la fois des tablettes, puisque nous avons réuni une demi-douzaine de tablettes mésopotamiennes donc, qui seront exposées à bord de ce train, qui date de 1800, 1600 avant Jésus-Christ. Donc ce sont des pièces vraiment exceptionnelles. Et puis également des manuscrits, des incunables et des livres plus récents, donc qui nous permettent de survoler en quelque sorte l'histoire du livre que vous avez évoqué tout à l'heure avec Frédéric Barbier.
Quand je me rappellerai toujours, lors de notre première réunion pour préparer cette exposition initialement, quand vous nous avez sorti de leur très belle boîte avec vos beaux gants blancs, ces merveilles, vraiment on ouvre de grands yeux parce que ce sont des trésors. Les manuscrits enluminés notamment sont de véritables chefs-d'œuvre de la miniature.
Oui, absolument. On montre plusieurs manuscrits enluminés qui ne sont pas forcément antérieurs à l'invention de Gutenberg, parce qu'on sait que les manuscrits
ont continué
bien après l'invention de Gutenberg, pendant des décennies. Donc l'imprimerie n'a pas mis fin à la pratique du manuscrit, comme on pourrait le croire. Donc les choses ont coexisté pendant un certain temps. Et puis, d'autre part, le livre imprimé, les premiers livres imprimés étaient calqués, littéralement calqués sur les manuscrits. On peut le voir d'ailleurs,
on le verra là dans la vitrine.
On le verra dans la vitrine. On pourra voir justement des manuscrits enluminés, à la fois des manuscrits enluminés et des imprimés enluminés.
C'est ça.
Parce qu'on a aussi enluminé des imprimés.
Dans une vitrine, je voulais qu'il y ait justement les trois côte à côte, c'est-à-dire un manuscrit, donc un manuscrit qui est tout à fait, j'ai envie de dire, canonique, tout à fait classique. Mm-hmm. Juste à côté, un des premiers incunables avec des illustrations, des enluminés à la main. Et puis, en troisième lieu, la troisième étape, c'est-à-dire à la fois le texte et les illustrations gravées, enfin imprimées, pardon.
Et souvent rehaussées, d'ailleurs.
Et rehaussées. Ce qui est tout à fait incroyable, en l'occurrence, c'est la chronique de Nuremberg, donc elle n'est pas rehaussée, elle, mais en tout cas, c'est très spectaculaire. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on est allé, les tout premiers typographes se sont amusés, si je puis dire, à faire des liens entre les lettres, exactement comme si c'était écrit à la main. C'est assez, comme s'ils ne pouvaient pas concevoir la graphie autrement, c'est assez étonnant.
Effectivement,
ça.
Les abréviations ont continué dans le livre imprimé pendant un certain nombre d'années, jusqu'au début du 15e siècle, du 16e siècle. C'est ensuite, c'est à partir des années 1510 que les imprimeurs ont commencé, enfin surtout avec Aldemanus, qui a donné le texte à lire, donc qui a supprimé les abréviations, qui a supprimé toutes les annotations, les gloses. Donc le texte était donné vraiment en majesté avec Aldemanus. Donc c'est à cette époque-là qu'on s'est débarrassé de tous ces dispositifs qui appartenaient donc au manuscrit médiéval.
Qu'on a modernisé.
On a modernisé, absolument.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1.
L'imprimerie est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1 et qui dit imprimerie dit forcément papier, Franck.
Alors, ces papiers, vous nous en avez prêté d'extraordinaire. Il y a non seulement d'ailleurs des manuscrits et des incunables parmi ce que prête le musée des manuscrits, mais il y a aussi de très belles reliures, très récentes, hein, pour montrer aussi la modernité du livre d'art.
Voilà, absolument. Nous avons voulu montrer donc un aperçu de cet art de la reliure, qui est un art du livre également, et qui est un prolongement, qui vient en prolongement de la fabrication du livre. C'est en fait ce qui termine un livre, ce qui achève un livre. Et donc, nous montrons des reliures de Marius Michel.
On voit tout un processus à travers l'exemple d'Antoine de Saint-Exupéry, notamment. Il y a d'ailleurs un manuscrit de Saint-Exupéry. Ça, c'est même pas un aperçu. C'est un éclair d'aperçu de l'incroyable collection que vous présentez, vous, dans vos collections permanentes. Boulevard Saint-Germain, c'est 222 Boulevard Saint-Germain. Honnêtement, si vous avez 2 heures, je dis ça pour les Parisiens ou pour ceux qui viendraient à être Parisiens dans les jours qui viennent, il faut aller visiter ce musée des manuscrits qui est une merveille, 222 Boulevard Saint-Germain. Vous avez une exposition en cours d'ailleurs en ce moment sur les peintres.
Hein. Des lettres et des peintres, effectivement, où nous présentons donc une collection de en environ 200 lettres de peintres du XVIIIe au XXe siècle, et notamment tous les grands peintres figurent dans cette exposition. On a notamment la souscription de Monet pour l'acquisition de l'Olympia de Manet. C'est grâce à Monet que ce merveilleux tableau a pu rester en France, puisqu'il a lancé cette souscription. On a donc la lettre, le document où il a noté justement tous ceux qui ont souscrit pour acquérir cette toile.
Faites-nous rêver un instant, Pascal Fulaché. Quels sont parmi les plus grands trésors du musée des manuscrits de Paris?
Alors, je pense que le plus ancien, déjà, c'est donc une charte, la charte de Corbie, qui est signée par les fils et petits-fils de Charlemagne, qui date de 825. Donc ça, c'est notre document fétiche, je dirais. Puis on a aussi
écriture presque miniaturisée, d'ailleurs, tout à fait extraordinaire.
Oui, absolument. Et puis le testament de Louis XVI, qui est donc ce testament qu'il a laissé en partant sur la route de Varennes, et donc qui a été lu par Alexandre de Beauharnais le lendemain de sa fuite de Paris. Et puis il y a également un très bel ensemble de manuscrits datant de la Révolution, donc écrits, parce que tout est autographe bien sûr dans ce musée.
Et en matière littéraire, vous avez alors un nombre de manuscrits absolument incroyable. Comme dans le train du reste, évidemment, un certain nombre de ces documents sont ouverts à une certaine page, mais on peut, grâce maintenant à des feuilletoirs informatiques, interactifs, on peut se promener dans le document.
Voilà, nous avons équipé le musée de dispositifs qui permettent de lire le document dans son intégralité, d'où la présence de feuilletoirs et de bandes multimédia au sein du musée.
Avant que je ne redonne les différentes destinations de ce train à vous de lire littérature, Frédéric Barbier, j'aimerais que nous concluions sur l'importance de l'imprimerie en termes de révolution mentale. C'est l'invention de la modernité, en quelque sorte ?
Oui, c'est l'invention des médias de masse.
C'est ça.
Quand je disais tout à l'heure, on a peut-être eu 15 millions d'unités bibliographiques qui sont parties
sur l'Europe. Oui.
On n'avait aucun moyen de prévoir ce que ça pouvait donner. Ça ne s'était jamais produit. Et vous y avez fait allusion. C'est lentement qu'on s'est aperçu d'un certain nombre de conséquences que ce genre de phénomène pouvait avoir. De même qu'on s'aperçoit doucement des conséquences que d'autres phénomènes aujourd'hui peuvent peut-être avoir dans le même domaine des médias.
Oui, ce serait intéressant de voir ce que finalement Internet aura créé comme changement, parfois sans doute profond dans la société, mais il faut se laisser un peu de temps pour en juger, évidemment.
Il faut, en histoire, on compte par génération.
Mais oui.
Et donc, il faut compter deux générations.
Il en faut bien deux, trois, oui, voilà, exactement.
C'est ce qui s'est passé à l'époque de Gutenberg. Vous le disiez tout à l'heure, la réforme aurait peut-être eu lieu sans le livre, sans l'imprimer, mais si elle a réussi, si elle a pris cette dimension, c'est parce qu'elle a disposé d'un moyen de communication qui n'existait pas antérieurement.
Alors, je pense que avec toutes les annonces que j'ai faites, les personnes concernées ont eu le temps de se procurer un papier et un stylo, et je redonne donc le programme qui figurera du reste sur notre site internet. Donc le train sera à Lyon demain, à Valence vendredi, à Marseille samedi, où je vais faire moi-même une petite incursion, Toulouse dimanche, Bordeaux lundi, à mardi le train sera à La Rochelle, mercredi à Angers, jeudi à Rennes, samedi, le train ne sera pas ouvert le vendredi 3, samedi il sera à Nantes, dimanche 5 juin à Lille, lundi 6 à Reims, il sera de retour à Paris mardi 7 où vous pourrez de nouveau le visiter donc à la gare du Nord. Et puis à propos du musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel à Avranches, sachez qu'à partir du 18 juin et jusqu'au 25 septembre prochain aura lieu une très grande et somptueuse exposition sur les manuscrits de la chanson française. Ça s'appelle Paroles et musique et ça promet d'être passionnant. Merci infiniment à Pascal Fulaché, non seulement d'avoir été des nôtres aujourd'hui, mais surtout d'avoir fait preuve de cette grande générosité pour alimenter les belles vitrines de cette exposition itinérante. Et merci à vous, Frédéric Barbier, pour la clarté avec laquelle vous nous avez littéralement fait toucher du doigt l'importance de cette révolution de l'imprimerie. Je crois qu'il est temps d'accueillir Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Enceinte, mais c'est lui qui stresse. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Alors si toutes les attentions sont portées sur la mère, on a tendance à délaisser les futurs papas et à ne pas entendre leurs angoisses. Pourtant, la grossesse est une étape importante, psychologiquement aussi pour eux. Alors depuis le début de la grossesse de votre femme, vous êtes totalement paniquée, mais vous n'osez pas lui en parler. Vous avez pris 35 kilos hein, durant ces 9 mois. Au contraire, la grossesse de votre femme a été une sinécure. Les futurs papas sont à l'honneur pendant une heure sur Europe 1. On attend dès maintenant tous vos témoignages en direct au 3921 et sur faustine.europe1.fr. Franck.
Merci Faustine, merci Julia, à demain.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.